C'est le lieu de la gouvernance d'une entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, il est absolument nécessaire, dans un lieu de gouvernance, quel qu'il soit, d'avoir une parité et d'avoir toutes les sensibilités, à la fois masculines, mais également féminines.
Ainsi parlait Marie-Jo Zimmermann, l'ancienne députée de Moselle en 2011. La loi Copé-Zimmermann impose des quotas de femmes dans ces lieux de gouvernance que sont les conseils d'administration des entreprises. Le texte, il a 10 ans aujourd'hui, presque jour pour jour. Bon, en 2021, l'argumentaire serait sans doute plus vif, hein, représenter toutes les sensibilités, féminines comme masculines, voilà des mots qui coulent, qui ne font pas peur, pas d'indignation, pas de brutalité. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Grâce aux quotas, les femmes ont enfin crevé le plafond de verre. Elles sont montées à l'étage. 46% de femmes aujourd'hui dans les conseils d'administration du CAC 40. Il y a 10 ans, on était à 15% et la parité, on aurait pu l'attendre longtemps. À présent, eh bien, il faudrait enfoncer, certainement toujours aussi poliment, la porte des comités exécutifs, des comités de direction. Voilà les vrais lieux de pouvoir. Et ce sont encore essentiellement des boys bands. Et enfin, puisqu'en 2021, on a le devoir d'espérer, eh bien, il faudrait obtenir aussi les mêmes avancées pour les femmes qui sont quelques étages plus bas, les inégalités de salaire, la précarité, les horaires décalés. Là, ça ne se passera pas à coup de quota, mais on attend aussi des résultats.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est samedi, on parle ensemble de l'économie comme on la vit et comme on la voudrait. Une émission préparée, réalisée par Juliette Gou et Valentin Pérez est attaché de production. Ce matin, c'est Antoine Gomez qui nous accompagne à la technique. Au programme ce matin, des questions d'argent, celui que nous avons en commun, l'argent public est-il bien dépensé? On va parler de la dette cette semaine encore. Trois livres, je sais pas vous, Christian Chavagneux, bonjour Christian.
Bonjour à tous.
D'Alternatives économiques, bonjour Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne.
Bonjour.
Ben nous, au bureau d'On n'arrête pas les cours, on a reçu trois livres sur la dette, un venu des États-Unis et puis deux livres français. Les économistes atterrés, le think tank ultralibéral l'IFRAP.
Agnès c'est Berger. Marrant, je l'ai pas reçu celui-là.
Ben non, il ne l'envoie pas à Alter Echo, je vous le prêterai. Alors, 120% de dette, y a-t-il encore une limite? La question enflamme nos économistes et nos débatteurs, bien sûr. Donc Laurent, Christian, on se retrouve dans une poignée de secondes. L'argent public, c'est aussi celui de la relance. On a 100 milliards à dépenser en 2 ans. Est-ce que nous savons faire ça en France, investir vite et bien? Voilà tout l'enjeu. L'argent commence à arriver dans les territoires. Vous allez entendre le reportage de Caroline Pommès. Et puis notre invitée, c'est la ministre en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Dans son portefeuille, elle a cette relance. Et puis elle a aussi la question des vaccins. C'est l'actualité ce matin. Donc beaucoup de questions pour Agnès Pannier-Runacher dès 9h45. Et puis beaucoup de questions comme d'habitude pour Madame Vieux-Boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, on a des questions d'auditrices sur la formation professionnelle?
Oui, de Françoise et Marie-Claude sur le compte personnel de formation. Peut-on l'utiliser à la retraite? Y a-t-il des arnaques? Et surtout, est-ce le bon moment pour se former?
Donc les réponses de Sandrine Foulon, ma vie au boulot, ce sera juste avant 10h. Tout de suite, la facture de la crise, la dette, jusqu'où ne plus s'inquiéter?
Très clairement, ce sont les Français qui vont payer, puisque la dette est une dette souveraine.
Olivier Dussopt.
Nous sommes aujourd'hui à 120%.
Ouais.
Et effectivement, le passage de 120 à 100% est une marche qui est importante et qui va nécessiter plusieurs années.
Ministre chargé des comptes publics.
Le choix qui est le nôtre, et que nous défendons avec Bruno Le Maire depuis le début et avec tout le gouvernement, c'est de ne pas augmenter les impôts et de continuer à les baisser. Et le choix qui est le nôtre est de pousser, soutenir la croissance pour générer des recettes et ainsi rembourser la dette.
Quand on regarde la dette, il y a beaucoup de gens qui regardent le ratio de dette sur PIB.
Anne-Laure Kichel.
C'est une grandeur qui est intéressante, mais qui est très imprécise finalement. Et on a eu des dogmes qui se sont inscrits. En France, on avait un peu le chiffre magique des 100%.
Spécialiste de la dette et fondatrice de Global Sovereign Advisory.
D'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'année dernière, si on fait la moyenne de tous les gouvernements dans le monde, on a passé cette barre symbolique des 100%. On est à peu près à 110%. Comme quoi, les barrières se franchissent, en effet, sans que le monde se soit effondré.
On va avoir des choix à faire. Par exemple, certains disent, la Banque centrale n'a qu'à effacer la dette. Mais ceux-là ne connaissent ni les traités, ni la composition de l'Union
européenne.
Oui, elle ne le fera pas.
Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes.
Et donc, je pense que sur cette affaire-là, il faut traiter ce débat avec beaucoup de sérieux, beaucoup de compétences, sans démagogie, sans mensonge.
Ce débat est délirant.
Patrick Artus.
Donc il faut comprendre que quand de la dette de la France est détenue par la Banque de France, comme la Banque de France reverse ses profits au Trésor, cette dette est gratuite et même si les taux d'intérêt étaient de 25%, cette dette serait toujours gratuite.
Chef économiste de Natixis.
Donc cette dette ne coûte rien à l'État. Il n'y a rien changé. Cette situation est parfaite. Cette dette, elle n'existe pas.
Il y a une première question, c'est est-ce qu'il faudra la rembourser ? Et si on la rembourse, qui la rembourse ?
Olivier Faure.
Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise qu'elle soit remboursée indifféremment par les premiers de corvée qu'on a tellement loués pendant la période de confinement, en disant que c'était le sel de la terre. Puis maintenant, on va leur dire, c'est aussi vous qui allez la payer.
Premier secrétaire du Parti Socialiste.
En revanche, puisqu'on ne touche pas à la fiscalité des plus riches, les plus riches sont épargnés. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus.
Christian Chavagneux, on a eu cette semaine les chiffres, la facture on va dire, hein, ouais, de la crise en 2020, c'était à Bercy, et qu'est-ce qu'on en retient ?
Alors effectivement, plein de chiffres, le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt nous a dit que le déficit budgétaire de la France serait autour de 180 milliards d'euros, c'est-à-dire 90 milliards de plus à cause de la crise. Donc en fait, le coût budgétaire de la crise, 90 milliards pour l'État. La Cour des comptes nous a dit, ouais, on a fait nos calculs, pour la Sécu, c'est 40 milliards de plus que ce qu'on aurait dépensé. C'est un peu plus difficile de dire pour les collectivités locales, on sait qu'elles ont dépensé beaucoup plus pour le RSA, pour aider les plus pauvres. 6-7 milliards. Bon, au total, ça fait quoi ? On a l'équivalent à peu près de 8 à 9% du PIB, de la richesse créée, qui est le coût de la crise. Et comme en même temps, le PIB, c'est-à-dire notre richesse produite à cause des confinements, a baissé de 8-9%. Ça veut dire que 9-9-18, notre dette, en fait, elle a augmenté de 18% en pourcentage du PIB. Mais le vrai coût de la crise, c'est en gros 8-9% du PIB. Et c'est énorme.
Et ce matin, on va se concentrer sur la dette. Laurent Bigorgne, quand on dit qu'on est à 100, on s'approche des 120% de dette. Si on prend un petit peu de recul historique, vous aimez bien ça aussi, ça a explosé depuis 20 ans ?
Ça augmente continuement. En 95, la dette française représentait 56 points de PIB. À la veille de la grande déflagration financière de 2008, elle représentait 67% du PIB. Et on est maintenant, effectivement, vous voyez, 12 ans plus tard, à 120%. Donc il y a une augmentation constante, une accélération, et qui, évidemment, pose un problème fondamental quand on reprend la photo de l'année 2020. Et ce sera un cas aussi en 2021. On aura utilisé, l'État aura levé autant d'argent pour se financer par l'impôt que par la dette. Et ça, ça me paraît être quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Cette année, c'est sur les marchés qu'on ira chercher 1 euro pour 1 euro de fiscalité.
Ça veut dire qu'on est rentré dans un monde nouveau. Juste pour compléter la photo, Christian.
Moi, je voudrais prendre une photo beaucoup plus large et remonter aux années 50, si vous me permettez. Des années 50 aux années 70, la régulation keynésienne, là où l'État intervient beaucoup dans l'économie, la dette, elle a été divisée par deux, en gros, de 20% du PIB à 10%. Depuis, elle n'a pas cessé de grimper. On a eu les années 70, c'est le choc pétrolier, elle double. Et on a les années libérales, les années 80-90, c'est les baisses d'impôts et la politique ultra-monétariste des banques centrales qui fait exploser les taux d'intérêt. Et là, c'est un triplement encore de la dette. Et on arrive en 2000, on a une dette de 60% qui est équivalent à 60% du PIB. Et on a la crise financière, saut, et on a la pandémie, grand saut. Donc on voit que c'est pas tellement cette évolution des dettes publiques, le fait que la France a explosé ses dépenses, parce que cette particularité, enfin c'est pas une particularité de la France, tous les grands pays de l'OCDE ont suivi à peu près la même dynamique. Ce sont les crises, enfin les politiques libérales et les crises de la finance qui ont fait exploser la dette française. Et là, on arrive au moment de la pandémie, avec tout ce passif.
Oui, j'aimerais là aussi nuancer, Christian, parce que quand on regarde aujourd'hui la dette dans la zone euro, c'est pas 120 points de PIB, c'est 100 points de PIB, c'est 20 points en dessous. La dette chez nos amis allemands,
c'est très élevé. Et la dynamique historique depuis les années 70, c'est une montée continue.
La dette chez nos amis allemands, c'est 70 points de PIB.
Ah bah oui, c'est les Allemands qui sont l'exception, qui confirment la règle. Il n'y a que l'Allemagne qui est dans ce côté-là.
Et il y a beaucoup d'autres pays en Europe, notamment en Europe du Nord, où on n'est pas aujourd'hui à 100, 120, 160 comme l'Italie. Il y a une fracture aujourd'hui, vous le savez bien, dans l'Europe, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et la France est franchement pas bien placée.
Est-ce que cette fracture est un problème, Christian ?
Non, pour moi, c'est pas un problème. On a eu la qualification de cette fracture par le ministre des Comptes publics cette semaine dans notre chez
Olivier
notre confrère les Échos, Olivier Dussopt. Il nous a donné deux messages, Olivier Dussopt. Il nous a dit si la pandémie est finie, c'est quand même un gros si la pandémie est finie, 2021, ce sera la fin du quoi qu'il en coûte. La montée de la dette, c'est terminé. Et ça, honnêtement, c'est un fait. Si la pandémie est finie, l'État va arrêter de soutenir les entreprises et les ménages. Donc oui, il ne faudra pas couper le robinet d'un seul coup. On va couper le robinet tout doucement. Mais si la pandémie est finie, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Ça, c'est juste un fait.
Par contre, on sera autour des 120%, mais on ne sera pas plus haut. C'est ça qu'il nous a dit.
Okay. Exactement. Mais il y a un deuxième message dans l'interview de notre ministre. Il nous dit « Notre défi principal pour l'avenir, c'est de réduire le recours à l'endettement. » Et ça, c'est un choix de politique économique. Pourquoi ? Je disais tout à l'heure, en 2000, notre dette, c'était à peu près 60% du PIB. Aujourd'hui, 2 fois 6, 12, 120, on est au double. D'accord ? Or, au moment où on avait une dette qui représentait 60% du PIB, le coût de la dette, les intérêts qu'on payait, c'était en gros 2% du PIB. Cette année, ça va être un peu plus de 1%. Donc, vous voyez, en gros, à la louche, hein, en 20 ans, la dette française, elle a doublé et le coût a été divisé par 2. Pourquoi ? Parce qu'il y a un excès d'épargne mondiale, il y a plein de gens qui veulent placer de l'argent. Donc, quand vous voulez en emprunter, les taux d'intérêt ont beaucoup baissé, plus bien sûr la Banque Centrale Européenne qui nous maintient les taux très bas. Est-ce qu'on peut raisonner de la même façon ? Quand on avait des taux à 4-5%, quand on a des taux à zéro et qui, a priori, pour ces phénomènes structurels, vont rester à zéro longtemps. Est-ce qu'on peut raisonner de la même façon ? Le ministre nous dit oui. On est comme dans les années 90.
Olivier Dussopt a dit oui.
Olivier Dussopt, quand il nous dit qu'il faut réduire absolument l'endettement, il nous dit que les taux soient à zéro ou que les taux soient à 5, on tient le même raisonnement. Mmh. Je trouve que là, ça se discute.
Okay. Est-ce que ça se discute pour vous, Laurent ? En gros, ce que nous dit Christian Chavagneux, c'est qu'on est entré dans un nouveau monde. Cette dette aujourd'hui, elle nous fait moins mal que quand elle était beaucoup plus basse. Et donc, finalement, ce palier où on s'installerait à 120%, c'est pas un problème, hein.
Exactement,
Christian, c'est
ce bien résumé.
Est-ce que Laurent, vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, je vais dire différemment. Je me rallie à ce que dit celui qui est censé, conseiller Olivier Dussopt et Bruno Gemmer, qui est Philippe Martin, qui dit au fond, pour l'instant...
Économiste, président du Conseil d'analyse économique.
Effectivement, du CAE. Mmh. Pour l'instant, le risque, ce n'est pas l'augmentation de la dette. On est en pleine crise sanitaire et économique. Le risque, c'est de voir plonger l'économie. C'est ce qui a d'ailleurs conduit un certain nombre d'entre nous à qualifier le plan de relance d'insuffisant, à certains égards, puisque le plan de relance, c'est 10 milliards en 2020, c'est 40 milliards au mieux en 2021. Et quand on se compare à un certain nombre d'autres pays, ce qui a fait évidemment que c'est CAE et le Conseil national de productivité, on trouve que à certains égards, le compte n'y est pas. Donc pour l'instant, effectivement, la question n'est pas tellement celle de l'endettement, la question c'est celle du soutien à l'activité économique. Mais là, quand on entre dans ce territoire, il faut dire une chose, si la dette publique, elle inquiète assez peu à court terme, Christian a raison de le dire, il y a eu une levée mardi, la France a levé 7 milliards d'obligations à 50 ans de maturité, donc des obligations très très longues, on l'a fait dans des conditions où ça a été sursouscrit. Il y a eu pour 75 milliards.
Ça veut dire que les investisseurs se jettent
exactement
sur notre dette, oui.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient prêts, jusqu'à 75 milliards, alors qu'on n'en demandait que 7. Donc on voit bien qu'il y a une confiance dans la valeur France, à un taux d'intérêt de 0,593%. C'est-à-dire franchement de l'argent qu'on va pas rembourser très cher. Donc la question à ce stade n'est pas là. La question n'est pas plus une question de souveraineté nationale, parce que comme la BCE est là, en réalité il y a très peu de titres qui vont aller se placer à l'étranger. On voit bien, c'est une tendance pour la France comme pour les autres pays de l'Union européenne dans cette crise. Mon point à moi, c'est qu'on oublie toujours, c'est l'éléphant dans la pièce, mais la dette privée. Il y a la dette publique et on a un immense sujet d'endettement privé. Je rappelle que les entreprises françaises, elles sont 650 000 à avoir souscrit pour 128 milliards d'euros de prêts garantis par l'État depuis mars. C'est absolument considérable.
Les deux tiers n'ont pas été utilisés. Les deux tiers n'ont pas été utilisés.
Elles vont devoir les rembourser. Elles se financent certes à des conditions très faciles, mais attention, parce que les entreprises françaises sont plus endettées que la moyenne. Et quand on est plus endetté, on n'investit pas. Et donc c'est la croissance de demain qui est menacée et on résiste moins au choc.
D'accord, ça c'est sur la dette privée. Mais si on se concentre, Laurent, sur la dette publique, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, j'ai l'impression qu'il y a un point de convergence entre vous deux. Mmh. Aujourd'hui, la dette publique, on ne doit pas s'en soucier. C'est pas l'urgence, si je vous ai bien compris, Laurent.
C'est pas l'urgence. Ensuite, il va falloir reconstruire à un moment ou à un autre. Mais je pense que tant que la crise sanitaire est là, ça n'est pas envisageable, une trajectoire des finances publiques.
Ce qui veut dire qu'on se fixe une limite. Ça, c'est quand même ça le sujet. C'est-à-dire qu'on avait les critères de Maastricht. Notre limite, elle était en 92 établie à 60% de PIB.
C'est complètement dépassé, ça.
Est-ce que c'est dépassé? Regardez, pour l'instant, c'est suspendu.
On n'est plus dans le même contexte. En 92, il y avait des taux d'intérêt qui étaient très différents. Il y avait de l'inflation. On n'est plus dans le contexte des 60% et des 3%. Ça devient tout à fait incompréhensible. Et même en Allemagne aujourd'hui, il y a des économistes qui sont là pour nous dire, écoutez, franchement, c'est pas le sujet et c'est pas le cœur du problème là pour le moment. Là où on pourrait avoir effectivement un débat, de la même façon que Christian a très bien dit que le débat s'est déplacé aux États-Unis, on l'a vu, la question c'est la soutenabilité de la dette et c'est au fond la capacité de remboursement des États.
C'est ça la soutenabilité.
La question qui à mon avis va se poser en France et qui se pose déjà, c'est celle de l'efficacité de la dépense publique.
Oui, ouais, évidemment. Alors, mais regardez ce que fait Joe Biden aujourd'hui. Il nous dit, il booste l'économie avec un énorme soutien à court terme, plus de 10-12% du PIB, alors qu'en France, on est bien en dessous. Et le Conseil national de productivité a montré que la France était petit bras par rapport aux autres pays européens. Et il va nous annoncer en février un énorme plan d'investissement public. Il va faire exploser la dette américaine. Le message du nouveau président des États-Unis, c'est la dette, ce n'est pas un problème. On est dans des conditions historiques. Mais on a une opportunité historique pour faire les investissements dans le numérique, dans le etc., etc., tout ce qu'on sait, le changement climatique. C'est à côté de cette opportunité, si on la laisse passer, comme le gouvernement est en train de vouloir la laisser passer, on fait une erreur historique majeure. Et ce que nous a dit Laurent est très important. La France, à 50 ans, a emprunté en gros à 1,5%. Ça veut dire que, évidemment, on ne va pas, en claquant les doigts, passer notre dette, qui aujourd'hui est une maturité, c'est-à-dire une longueur de remboursement d'à peu près 8-9 ans, à 50 ans. Mais vous imaginez, sur 50 ans, 1,5%,
ouais, ça veut dire que... Il y a même des obligations...
Ça veut dire que, même si les taux d'intérêt... Et à 10 ans, jusqu'à 15 ans, on est à taux négatif.
Alors, ça veut dire qu'on gagne de l'argent, les gens nous paient pour nous prêter.
Exactement. Voilà. Alors évidemment, 1,5%, c'est plus cher que zéro, on est bien d'accord, mais c'est rien sur 50 ans. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si même vous êtes un économiste libéral qui dit, oh mais attendez, les taux sont à zéro, mais demain, il vaut beaucoup augmenter.
Voilà, c'est tout. Bah,
si on allonge la maturité de la dette, eh bien, avant que l'effet de la hausse des taux d'intérêt ait un effet sur notre dette, on pourra aller jusqu'à 50 ans. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 10-15 ans. Ça veut dire qu'on a une opportunité de 15 ans. Qu'est-ce qu'on fait de cette opportunité ? Rien ou quelque chose ? Le ministre Dussopt nous dit rien.
Laurent Vigorne.
Attention, deux points essentiels. D'abord, on n'est pas tout seul. On n'est pas comme aux États-Unis, on est dans une union monétaire. Et tout le monde ne pense pas comme nous, parce que je le disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas dans la même situation que nous. Et il faut aussi qu'on apprenne, nous Français, qu'on n'est pas le centre du monde, ni même d'ailleurs le centre de l'Europe. On vit dans un espace dans lequel on a choisi de guider notre destin, pour le meilleur comme pour le pire.
Attention, Laurent.
Et les Allemands ne pensent pas comme nous. Et il y a des élections en Allemagne, vous le savez Christian, en septembre 21.
Oui, voilà. Mais attention, premier Laurent, point, parce que point. Si vous nous dites on aurait bien voulu saisir cette opportunité historique, et à cause de l'Allemagne, ou à cause de l'Europe, on n'a pas pu la saisir, vous êtes en train de nourrir tout le populisme anti-européen. Bien évidemment,
pas
mais ce
tout,
discours.
Parce qu'en réalité, il y a 750 milliards de plans de relance, mais je pense que les Européens nous attendent aussi, nous, sur l'efficacité de la dépense publique, sur la crédibilité de notre trajectoire. Et là aussi, il faut regarder
Il y a un trésor caché, on claquerait des milliards comme ça qu'on ne devrait pas dépenser. Il n'y a pas de trésor caché.
Vous parlez-vous des montants, moi je parle de l'efficacité. Qu'est-ce qu'on a vu pendant la crise ? Est-ce que, malgré tout l'argent qu'on met dans notre système de santé, est-ce qu'on estime qu'il était là où il devait être ? Est-ce que par rapport à des dépenses qui sont des dépenses qui favorisent la croissance de demain, des dépenses de R&D, des dépenses d'enseignement supérieur, des dépenses d'éducation, on voit quoi ? La France est en retrait sur ces dépenses. Pourquoi ? Parce qu'on a un système social qui coûte très cher.
Parce qu'on a fait l'austérité budgétaire pendant 20 ans.
Budgétaire en France. On est le pays qui crame le plus d'argent public. Il n'y a pas d'austérité, Christian. Elle est où l'austérité en France ?
J'ai une question.
Elle est où l'austérité ?
Sur le fait qu'on avait beaucoup moins de lits d'hôpitaux que les autres, sur le fait que notre dépense de R&D publique est plus faible.
On était le pays d'Europe et maintenant celui de l'OCDE qui a le plus haut niveau de dépenses publiques. Il n'y a pas d'austérité en France. C'est un mythe.
L'austérité, c'est pas le niveau des dépenses publiques. C'est est-ce que l'État, par sa contribution à l'économie, tire la croissance vers le bas ou la pousse vers le haut ? Oh, elle l'a tiré plutôt vers le bas.
On est le pays qui dépense le plus. Il n'y a pas d'austérité en France.
J'ai encore 40 secondes pour poser une question. Non, il y a le débat sur l'annulation de la dette, celle qui serait détenue par la BCE. Patrick Artus, il me semble, dans le zapping sonore, là-bas, a dit non, mais il est stellaire ce débat, il n'y a pas de sujet. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Est-ce qu'annuler la dette dans ces conditions-là, on ne devrait pas en parler, on devrait parler d'autre chose ?
Moi, je suis pas sûr que juridiquement ce soit possible. Alors certains disent oui, certains disent non, j'en sais rien. Et aujourd'hui, de toute façon, comme l'a dit Laurent, les Européens ne le veulent pas. Donc s'il faut se battre pendant 10 ans pour annuler un truc qui coûte zéro, moi, je suis désolé pour mes amis gauche qui défendent cette idée, mais ce n'est pas la priorité.
Je suis totalement d'accord avec Christian, le sujet, c'est la croissance après la crise.
Laurent Bigorgne et Christian Chavagneux. Moi, il me semble que ce sujet de la dette, on y reviendra, ça va être notre sujet pour 2022. Là, on est en train d'anticiper sur le débat politique. On en reparlera. Allez, l'économie comme elle se passe ailleurs, ou plutôt la vaccination comme elle se passe ailleurs. Je vais vous emmener dans le pays dont le laboratoire Pfizer a fait sa vitrine. Nous partons en Israël.
חדשות הערב, מאולפני כאן בירושלים.
חדשות הערב, קורונה בישראל.
On y est, bonjour Michel Paul.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes correspondant de France Inter en Israël. Alors en France, et plus largement en Europe, on a un débat, une exaspération qui est en train d'enfler au sujet des vaccins et des retards de livraison de Pfizer et d'AstraZeneca. Mais chez vous, Michel, on a le sentiment qu'en Israël, il n'y a aucun problème. Et donc on aimerait bien comprendre ce matin comment vous en êtes déjà à 2 462 000 Israéliens vaccinés.
Et ce week-end, 1 million d'Israéliens auront reçu la seconde dose, sans laquelle, c'est une des premières conclusions, le vaccin de Pfizer n'est pas pleinement efficace. Alors, avant-hier, en l'espace de moins de 24 heures, 240 000 personnes ont été vaccinées. Le secret, Alexandra, ce sont les Koupot Rolim, les 4 caisses d'assurance maladie dont les dispensaires se trouvent partout en Israël, avec un système centralisé qui permet le suivi des personnes vaccinées. Alors, cela fait tout juste un mois que cela a commencé, au départ avec les plus de 60 ans, on en est maintenant aux 35-40, et ce dimanche, les lycéens de 16-18 ans vont recevoir leur première injection. Il faut sauver le bac, expliquent les responsables de l'éducation nationale. D'énormes centres de vaccination ont été ouverts. Cela se passe très simplement, juste un SMS pour la convocation à une heure très précise pour éviter les files d'attente et hop, au suivant.
Donc en Israël, Michel, vous ne parlez pas de risque de pénurie de doses.
Mais écoutez, à l'issue des 2 premières semaines, il y a eu un ralentissement, l'intendance ne suivait pas, mais les stocks ont été rechargés. On note cependant une baisse de l'engouement des premiers jours. Bibi Netanyahou n'a pas appelé une fois, mais 14 fois Albert Bourla, le patron de Pfizer, pour négocier avec lui. Le premier ministre israélien s'est investi à fond dans cette affaire. Alors, pour lui, bien sûr, ce n'est pas seulement la santé des Israéliens qui compte. Il y va aussi de son avenir politique aux élections du 23 mars et de son avenir tout court pour son procès pour corruption. Et puis, Israël passe à la caisse aussi des vaccins plus chers d'environ 40% à $47 la double dose, en provenance de la centrale logistique de Pfizer en Belgique et la mise à disposition des données numériques plus ou moins anonymes décriées déjà par les organisations de protection des libertés informatiques.
Donc Michel, chez vous en Israël, donc la vaccination ça marche bien, est-ce que ça veut dire que l'activité économique elle reprend déjà ?
Loin de là, Alexandra. On en est toujours à un troisième confinement, pas trop respecté d'ailleurs, notamment par les communautés ultra-orthodoxes. Les contaminations sont toujours très élevées, même si l'on note un certain ralentissement de la diffusion du virus. Les autorités promettent un allègement dès le mois prochain, la mise en service d'un passeport sanitaire, une sorte de sésame, notamment pour le monde de la culture et pour les voyages. Mais attention, un des scénarios prévoit une nouvelle vague, la quatrième, due aux nouveaux variants. Aux alentours d'avril.
Michel Paul, en direct avec nous de Jérusalem. Merci à vous. Dans 10 minutes, la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, est l'invitée du Mageco. On va continuer à parler de vaccination, de vaccins, de stratégie d'achat, de livraison. Mais tout de suite, on reste sur le sujet, notre argent, comment nous l'empruntons, comment nous le dépensons. Tiens, les fonds pour la relance dont on vient de parler, ils commencent à arriver jusque dans les entreprises. Où en est-on ? Ce samedi matin, nous prenons la direction du Val d'Oise, c'est au nord-ouest de Paris. Nous sommes chez un industriel avec notre reporter Caroline Pommès.
Alors, me voilà à Cergy, Cergy-Saint-Christophe. Je vais visiter l'entreprise Relumix, qui est à 2 pas du RER. C'est une entreprise spécialiste dans le filtrage d'eau, qui s'occupe aussi des hydrocarbures. Monsieur Dombrowski.
Bonjour.
Bonjour.
Donc on voit beaucoup de kaki, parce qu'on est beaucoup sur le secteur militaire. Donc on fait de la séparation de l'eau dans le kérosène pour pouvoir distribuer que du carburant aux avions. Parce que quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, il fait moins 52. S'il y a de l'eau, ça marche pas très bien. Donc toute la partie hydrocarbures, c'est 80% de notre chiffre d'affaires et 20% sur l'eau. Mais évidemment, l'eau va prendre un essor différent. C'est une machine, donc... Là, celle que vous allez voir, c'est pour filtrer les eaux process sur un tunnelier. La machine de traitement qui est juste là derrière vous, elle pompe cette eau. Et l'eau propre est rejetée sur un bac qui déborde après et qui part ou en réseau urbain ou dans milieu naturel ou à la réutilisation.
Et cette machine-là, on va pouvoir la retrouver où ?
Alors cette machine-là, on en trouve déjà sur des chantiers du Grand Paris. Aujourd'hui, le développement à faire, c'est pour pouvoir placer cette machine un peu partout. Il faut que nos clients puissent approcher cette machine, l'essayer. Et donc pour ça, il nous faut du stock. Il faut effectivement avoir 2-3 machines qu'on puisse avoir en disponibilité pour nos clients.
Et donc pour ça, il vous fallait de l'argent ? que malheureusement vous n'aviez pas au vu de la situation sanitaire.
C'est vrai que le choix aujourd'hui c'était la prudence, hein, c'était de dire bon ben j'avais prévu des investissements début 2020. Bah, je ne les fais pas parce que déjà c'est compliqué pour une PME investir plusieurs centaines de milliers d'euros sur des machines à avoir en stock. C'est pratiquement impossible. Donc l'enjeu, c'était aussi aujourd'hui, donc avec le plan de relance, de pouvoir le faire tout de suite.
Et donc vous avez déposé un dossier début octobre ?
Donc il a été déposé sur la plateforme de BPI, et puis il a été validé mi-décembre, et les fonds sont arrivés, les premiers fonds sont arrivés fin décembre.
Et cet investissement, il est à hauteur de combien ?
Donc on avait une enveloppe de 1,7 million, et on est financé là-dessus à hauteur de 65% à peu près.
Qui fait combien ?
800 000 euros. On est au maximum de ce qu'on peut avoir sur le plan de relance.
Et 800 000 euros de subvention pour une PME, ça n'est pas un petit chèque. Hein. Alors que faut-il en attendre ? Eh bien, chez Relumix, M. Dombrovski s'attend à un chiffre d'affaires qui grossirait de 20% par an durant les deux prochaines années. Et il compte embaucher 20 personnes pour travailler aux côtés de ses 30 salariés actuels. Voilà, ça c'est un exemple du plan de relance. Le plan de relance en tout, c'est 100 milliards d'euros, je l'ai déjà dit, sur 2 ans. Et pas seulement pour l'industrie. Il a été annoncé en septembre 2020. L'objectif, c'est d'avoir dépensé à peu près la moitié, 50 milliards, d'ici la fin de l'année 2021. Et tout le sujet, eh ben, c'est de bien le faire, d'éviter les méandres administratifs, les relations, amitiés, d'affaires ou politiques. Alors déjà, comment ça se passe sur le terrain ? À une station de RER de notre industriel, on retrouve Caroline Pommès à la Chambre de commerce et d'industrie du département.
Alors je suis toujours à Cergy et là je vais rentrer à la CCI du Val d'Oise.
Donc je suis Pierre Cuchely, donc président de la CCI du Val d'Oise, industriel dans le Val d'Oise aussi, hein, faut peut-être le dire quand même, et vice-président de la CPME nationale en charge de l'animation des territoires. Le tissu économique, c'est effectivement 48 000 entreprises, mais beaucoup, enfin 99,9%, ce sont des TPE, PME, ce sont des entreprises d'un salarié, deux salariés, trois salariés. On est un département jeune, on est un département avec plein de petites boîtes qui sont des pépites. Effectivement, l'aéronautique, puisque nous sommes quand même le département qui accueillons l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, donc il y a forcément une vraie industrie liée à l'aéronautique en sous-traitance, mais aussi en service. Il y a beaucoup de sous-traitance automobile. Il y a beaucoup de mécanique, d'industrie, qui n'est pas forcément liée à l'automobile ou à l'aéronautique, mais beaucoup de sous-traitance industrielle.
Le gouvernement annonce des milliards, met des milliards sur la table pour aider les entreprises. Est-ce que ce plan de relance, est-ce qu'il vous sert ?
Alors, le plan de relance, il est forcément le bienvenu, dans la mesure où, effectivement, il va aider à l'industrie. On a quand même un certain nombre d'exemples dans ce département qui ont fonctionné. Hein. 35 projets ont été déposés pour faire des investissements, etc. Sur ces 35 projets, 9 ont été soutenus à hauteur de 6,1 millions. Donc ça fonctionne. Alors c'est sûr que par rapport aux 48 000 entreprises, c'est pas énorme. Ce qu'il faut espérer, c'est que ces aides vont faire boule de neige et que si les collectivités locales et que si les grandes entreprises du département passent des commandes aux petites, ça va donner un élan. Et ça va permettre aussi à leurs sous-traitants, qui en général sont autour, de repartir aussi.
Mais pour qu'il y ait effet boule de neige, il faut dès le départ des entreprises locomotives. C'est au niveau des régions qu'on s'active pour les repérer avec des comités à la relance, des sous-préfets et des contrats signés avec l'État. François Bonneau est président de la région Centre-Val de Loire. C'est aussi le vice-président de l'Association des régions de France.
On a beaucoup, beaucoup de mobilisations, des belles mobilisations de nos entreprises. Et s'agissant des fonds de l'État qui sont annoncés à un niveau très élevé, il est clairement dit que lorsque les investissements, lorsque les mises en performance énergétique, lorsque les rénovations d'infrastructures ne se feront pas dans le bon rythme, dans le bon délai, à ce moment-là, les fonds qui sont prévus ne viendront pas, pourraient aller ailleurs ou pourraient ne pas être versés du tout. Donc on a vraiment une course contre la montre parce que la vie de l'entreprise l'impose et parce qu'il faut vraiment un effet de souffle après cette crise pour relancer notre économie. Et en disant relancer l'économie, je veux le dire très clairement, c'est relancer l'emploi. Il faut absolument que nous puissions trouver là des points d'appui pour un développement de l'emploi.
Et dans le passé, c'est déjà arrivé que des enveloppes ne soient jamais ouvertes. L'histoire l'a prouvé. De l'argent public sur la table avec aucun candidat, aucune entreprise avec un projet viable en face pour l'utiliser. Denis Ferrand est économiste et président de Rexecode.
Bonjour, Caroline Pommès, France Inter.
Un des points les plus complexes de ce plan de relance, c'est qu'en fait, il fait le pari de l'investissement. Or, l'investissement, il ne suffit pas de mettre en place des dispositifs pour le financer. Encore faut-il qu'il y ait une volonté de déployer les projets qui peuvent être financés par l'intermédiaire des mesures de relance. On en a un exemple qui est tout à fait frappant, qui était l'exemple des programmes d'investissement d'avenir. C'était des plans qui avaient été déployés, annoncés par Nicolas Sarkozy, et appropriés ensuite par François Hollande. Et quand on fait le bilan 10 ans après, on se rend compte que sur ces 57 milliards qui étaient annoncés, vous en avez eu 25 milliards qui ont été effectivement dépensés. Parce que un plan de relance par l'investissement, il doit rencontrer une enveloppe budgétaire avec des projets d'investissement. Et c'est bien cette question du maillage entre les dispositifs et l'appropriation sur le terrain, c'est ça qui fait l'efficacité ou pas d'un plan de relance par l'investissement.
Et qu'est-ce qu'on en attend de ces plans d'investissement ?
L'investissement, c'est ce qui va vous permettre de préserver une capacité de l'économie à croître, parce qu'il faut toujours garder présent à l'esprit que après les phases de récession, celles que l'on a connues par le passé, eh bien la capacité à croître de l'économie, c'est toujours réduite. Et elle s'est toujours réduite en raison d'un sous-investissement qui intervient pendant les années de récession et pendant les années immédiatement qui suivent immédiatement ces années de récession. Donc là, c'est bien pour empêcher la manifestation de ce qui s'est toujours observé par le passé après les récessions, c'est-à-dire une perte de la capacité à croître, que ce plan de relance doit s'envisager, c'est préserver la capacité de cette économie à pouvoir générer des augmentations de pouvoir d'achat.
L'idée serait donc de remettre du charbon dans la machine. Et pour Xavier Rago, économiste, président de l'OFCE, pas de doute, il faut encore plus d'argent pour la relance.
Le plan de relance français des 100 milliards a été décidé en septembre 2020. C'était juste après le plan de relance allemand de juin, qui était de 130 milliards à peu près. Donc c'est un plan qui a été décidé au sortir de l'été, dans un environnement où on n'envisageait pas le second confinement, on n'envisageait pas le couvre-feu, on n'envisageait pas les restrictions dans les secteurs qui ferment de fait des lieux au public. Donc ce plan a des composantes qui sont toujours pertinentes. L'investissement, la transition énergétique. Il y a d'autres aspects qui étaient un peu dans le plan qu'il faut largement renforcer, comme le soutien effectivement aux entreprises, pas seulement pour investir, mais déjà pour ne pas faire faillite, pour ne pas fermer des lieux de production. Ça veut dire probablement mettre plus d'argent. Plus d'argent pour, un, continuer à assurer le revenu des ménages, petit 2, lutter contre la pauvreté, et petit 3, faire de sorte que cette situation sanitaire ne conduise pas à des vagues de faillite ou de sous-investissement des entreprises qui survivraient mais qui n'arriveraient pas à prévoir l'avenir. Il faut préparer l'avenir.
En tout cas, les vannes sont ouvertes. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est la bonne manière de dépenser tout cet argent ?
Alors, c'est vrai que pour nos auditeurs, je pense que toute cette valse de milliards, ça fait un peu peur. Hein. On parle de dette publique de 120% du PIB, alors que dans les textes européens, il s'agit de 60% du PIB de dette publique maximum. Tout ça, on se dit, mais où trouve-t-on tout cet argent ? Il ne faut pas avoir peur. Parce que, en fait, aujourd'hui, et l'argument massue, il est juste, c'est le suivant. Aujourd'hui, les États s'endettent à taux négatif. C'est-à-dire que quand l'État emprunte 100, il rembourse 99. Et donc, ça lui donne une marge de manœuvre inédite qu'on n'a jamais connue dans l'après-guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, effectivement, il faut dépenser, mais cet argent, il ne coûte pas très cher aujourd'hui, voire il ne coûte pas grand-chose. Donc, oui, utilisons ce levier-là pour aider les entreprises et assurer le soutien du revenu des ménages.
Le plan de relance près de chez vous, quand, pour qui et combien ? C'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et notre invitée ce samedi matin, c'est la ministre de l'Industrie. Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Le plan de relance, 100 milliards à dépenser sur 2 ans. On sait bien que la difficulté, c'est l'exécution, hein, c'est que ça arrive sur le terrain. Est-ce que les projets sont au rendez-vous ?
Oui, ils sont même plus rapidement au rendez-vous qu'on ne l'aurait imaginé dans la situation de crise sanitaire et de crise économique. Je vous donne un exemple sur mon périmètre. Nous avions budgété 550 millions d'euros d'accompagnement pour moderniser, décarboner, relocaliser des industries dans différents secteurs. Et nous avons lancé ce plan en septembre. Fin novembre, nous avions déjà plus de dossiers à valider que ces 550 millions d'euros. Et nous avons dû remettre 250 millions d'euros sur la table pour continuer à maintenir le flux de décisions. Mmh. Et nous avons clos l'année avec plus de 800 entreprises accompagnées, plus de 800 millions d'euros dépensés. Pourquoi ? Parce que les entreprises industrielles se projettent dans l'avenir, investissent et vont finalement nous proposer des projets beaucoup plus ambitieux que ceux qu'on imaginait initialement. Moi, je suis frappée d'une chose sur le dispositif le plus ouvert, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui est un dispositif très territorial, celui que mentionnait François Bonneau dans son propos, qui s'appelle Territoire d'industrie. Un projet sur deux, c'est de la relocalisation, c'est de la création d'emplois. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle et ça montre que nous avons des entreprises industrielles qui sont prêtes à prendre leur destin en main sur les territoires.
Et cependant, la relance, elle est rattrapée toujours, hein, depuis l'été dernier, rattrapée par l'urgence, la pandémie qui ne faiblit pas. Ce plan, il a été pensé il y a plusieurs mois. Est-ce que, comme l'économiste Xavier Rago le dit dans le reportage, en fait, il va falloir rajouter de l'argent? Il faut le repenser.
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a le plan d'urgence, qui est celui qui accompagne les entreprises en difficulté, les entreprises qui sont aujourd'hui fermées ou qui vivent au rythme de la pandémie, parce qu'un coup on ouvre, un coup on ferme, un coup il y a du couvre-feu. C'est le plan d'urgence. Sur ce plan d'urgence, nous avons continuellement augmenté les crédits mobilisés pour faire en sorte d'amortir la crise. Mmh. Cela concerne une partie des secteurs d'activité de notre économie. Le plan de relance, c'est pas un plan pour tenir la tête hors de l'eau des entreprises. C'est un plan pour transformer notre économie, pour la rendre plus compétitive, pour faire en sorte qu'au moment du rebond, ce soit les entreprises françaises qui captent les contrats à l'international.
Donc pour vous, il est bien calibré?
Pour nous, à ce stade, nous voyons pas de raison de l'augmenter. Mmh. Et donc nous mettons l'argent pour accompagner les entreprises et absorber la crise pour celles qui... la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, la culture évidemment. Mais de l'autre côté, nous sommes plutôt en accompagnement, en accélération d'instruction de dossiers, parce que c'est la rapidité d'exécution qui va compter.
Agnès Pannier-Runacher, ce matin, nous sommes rattrapés par l'actualité sur les vaccins, la production, l'acheminement, c'est aussi votre périmètre. Alors d'abord, on a cette polémique sur le vaccin Pfizer. Le laboratoire a décidé que dans un flacon, finalement, on n'a pas 5 doses, mais on a 6 doses. Et du coup, Pfizer explique qu'il va réduire le nombre de flacons livrés. Est-ce que ça, c'est dans le contrat ou est-ce que c'est un coup de force de Pfizer?
Alors, ce n'est pas Pfizer qui a décidé qu'il y avait 5 doses ou 6 doses dans le flacon. C'est l'autorité européenne à la demande des pays européens. Pourquoi? Parce que quand Pfizer a livré ses flacons, divine surprise, on s'est aperçu que ces flacons pour lesquels ils nous comptaient 5 doses pouvaient permettre d'en extraire une 6e. Certains prétendent même qu'on peut en extraire une 7e dose. Et donc les pays européens se sont dit c'est la bonne occasion de gagner 20% de capacitaire et d'avoir plus de doses. Et nous avons demandé à l'Agence européenne du médicament de nous donner une autorisation pour 6 doses. Mais donc, c'est une demande des États membres. Je crois que c'est important de le dire. Et effectivement, l'autorité européenne a instruit cette demande et je crois que c'était le 8 janvier, a autorisé à extraire 6 doses de ce fameux flacon. Et évidemment, Pfizer compte en doses, c'est-à-dire que son contrat est établi sur un nombre de doses. Donc jusque-là, c'est très classique, il n'y a rien d'exceptionnel. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire que Pfizer, du coup, a une meilleure capacité de production, qu'il livre le nombre de doses qui est dans le contrat, c'est parfaitement logique. Et à ce titre, il ne fait que respecter le contrat. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'au fond, il peut produire un peu plus. Et donc, s'il peut produire un peu plus, autant qu'une partie de cette production supplémentaire aille plus vite
donc là, c'est
dans
en discussion.
Le giron européen. Mais je veux aussi rétablir un point. En France, nous n'avons pas de retard de livraison de doses de Pfizer. Il y a eu un ralentissement la semaine dernière, mais qui est rattrapé. Et vous le savez, plus de 2 millions de doses ont été livrées depuis le début de la campagne. Et ce sont essentiellement des doses de Pfizer, puisque Moderna a un nombre de livraisons, de doses livrées un peu moins importantes.
Donc à partir de lundi, les doses Pfizer seront au rendez-vous.
Il y en a plus de 550 000 qui arrivent chaque semaine. Donc vous voyez, attention aussi à la caricature qu'on a pu entendre. Très factuellement, nous sommes dans les montants, le nombre de doses attendues.
Alors, l'autre vaccin que l'on attend, 400 millions de doses précommandées, c'est celui d'AstraZeneca. Et là, AstraZeneca prévient que de toute façon, il y aura des retards sur les livraisons. En Europe, il y aura probablement 60% de moins que prévu au premier trimestre. Pour le second trimestre, le labo dit qu'il est incapable de confirmer ses objectifs. Agnès Pannier-Runacher, est-ce que là, c'est la pénurie qui s'annonce ?
La pénurie, ce serait de ne pas avoir assez de doses au total pour vacciner les Français. Or, vous le savez, l'Europe, l'Union européenne, a commandé beaucoup de doses. On parlait de Pfizer à l'instant. Rien que sur Pfizer, 600 millions de doses ont été sécurisées. En revanche, nous n'aurons pas immédiatement, en claquant dans les doigts, ces 600 millions de doses. Parce que il y a des chaînes de production qui sont mobilisées. Ces chaînes de production, elles vont au rythme maximum aujourd'hui. Mmh. Elles sont en train de monter en capacité.
On est en train de parler de retard jusqu'au second semestre, jusqu'au second trimestre.
On parle de retard par rapport à une avance. Je veux redire ici que c'est un exploit technologique industriel exceptionnel qu'on est en train de faire collectivement au niveau mondial. Mais il n'y a pas de retard, par exemple, par rapport aux États-Unis. Ça aurait du sens de parler de retard. Les chaînes de production montent en capacité à peu près à la même cadence dans tous les pays. S'agissant d'AstraZeneca, ils nous indiquent avoir une difficulté sur une usine. Donc, moi, je leur ai proposé justement de travailler à trouver des solutions, peut-être en allant chercher d'autres usines pour produire. Ils nous disent, on préfère concentrer nos équipes sur cette usine pour passer ce cap difficile. Donc, tout le monde est à la manœuvre. Tout le monde est mobilisé et je veux sortir des veines polémiques des gens qui critiquent pour me consacrer à chercher des solutions. Mais alors, c'est ça que nous devons faire, chercher des solutions au niveau européen.
Ce ne sont pas que des polémiques, il y a aussi des inquiétudes. Est-ce que ça veut dire, ces retards, que le plan de vaccination tel qu'annoncé jeudi par Olivier Véran, on devait avoir 4 millions de personnes vaccinées fin février, 9 millions au mois de mars, 20 millions fin avril. Bon, est-ce que tout ça, ça veut dire que c'est repoussé, c'est déjà obsolète et dépassé?
Non, parce que nous avons encore de nouveaux vaccins qui arrivent. Nous avons Pfizer qui augmente ses capacités de production. En tout état de cause, ce qu'on peut dire aujourd'hui, on avait indiqué 1 million de personnes vaccinées à la fin du mois de janvier. Nous sommes au-delà de 950 000 aujourd'hui. Donc cet objectif sera dépassé. Nous avons également indiqué 15 millions de personnes vaccinées au mois de juin. Je suis raisonnablement confiante pour que cet objectif soit dépassé. Et entre les deux, nous gérons des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles au rythme de mise en place à la fois des chaînes de production industrielle, des aléas. Donc vous avez des entreprises qui nous disent « on est en train de monter le capacitaire ». On applaudit. D'autres entreprises qui disent on a un bug, on a un problème, on est absolument désolé, on essaye de gérer la situation.
Donc on est en train de suivre. Est-ce que Sanofi, on voit qu'il y a un problème quand même dans ces usines belges, et peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Est-ce que Sanofi, par exemple, qui a des usines, peut produire en France? Visiblement, AstraZeneca n'a pas envie.
Aujourd'hui, Sanofi, AstraZeneca des concurrents ou des sous-traitants, peu importe. Le sujet, c'est la mobilisation des équipes. C'est des transferts de technologie qui, en temps normal, prennent 12 à 18 mois. Là, on est en train de le faire sur des périodes de 3 à 6 mois. C'est extrêmement contraint et il faut avoir les meilleurs dans vos équipes. Et malheureusement, ces personnes n'ont pas de clones disponibles qu'on déploierait sur de nouveaux sites. Donc, AstraZeneca dit, nous, on veut se concentrer sur notre premier site en Belgique. Et ensuite, bien entendu, on pourra discuter. D'autres laboratoires sont intéressés par les capacités de production de Sanofi. Et il faut trouver la meilleure balance industrielle qui nous permet d'avoir le meilleur grand nombre de doses le plus rapidement possible. Donc il y a plusieurs options sur la table. Je peux vous dire qu'on y travaille d'arrache-pied. J'avais encore les équipes de Sanofi au téléphone hier, le président du conseil d'administration. Mes équipes ont peut-être 5 ou 6 conférences téléphoniques par jour.
Donc
pour
vous n'êtes pas inquiète?
Les meilleures options. Après, si vous voulez, il faut que toutes les usines européennes travaillent à pleine capacité sur les plateformes technologiques sur lesquelles elles sont les meilleures. Donc, Sanofi ne va pas forcément du jour au lendemain faire tel vaccin parce que ça prendra peut-être plus de temps, alors que tel autre, ils peuvent sortir plus vite. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder et sous l'égide du président de la République.
Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci beaucoup.
Mavio Boulot, Sandrine Foulon, bah on a des questions sur la formation. Est-ce le bon moment pour utiliser son compte personnel de formation? On commence avec le courrier de Françoise qui est à la retraite et voudrait savoir s'il lui faut absolument retravailler pour vider son compte.
Oui Françoise, la finalité du compte personnel de formation, le CPF, c'est d'être un outil pour les actifs, pour progresser ou changer de métier. L'idéal, c'est tout de même de l'utiliser avant de partir. Une fois à la retraite, votre compte ne s'auto-détruit pas, vos droits sont gelés, mais vous devez reprendre un travail, même à temps très partiel, en tant que salarié ou auto-entrepreneuse, c'est la condition pour ne pas perdre le pécule qui se trouve sur votre compte.
On poursuit avec la question de Marie-Claude. Elle est sollicitée par des opérateurs qui lui proposent des formations gratuites. Ils se présentent comme des services du gouvernement et la pousse à utiliser son droit individuel à la formation. Marie-Claude vous demande, Sandrine, si c'est une arnaque.
Oui, attention Marie-Claude, il y a des petits malins qui ont compris qu'il y avait une manne financière à exploiter. Vous savez, le DIF, le droit individuel à la formation, c'est l'ancêtre du CPF. Et normalement, les salariés avaient jusqu'au 30 décembre dernier pour basculer les droits de leur DIF vers le CPF. Le ministère du Travail a accordé du RAB et vous avez jusqu'au 30 juin pour le faire. Il a aussi battu le rappel auprès des fédérations professionnelles, des syndicats, pour que les salariés se forment, surtout en ce moment. Les droits acquis au titre du DIF peuvent représenter jusqu'à 1 800 € pour ceux qui l'ont jamais utilisé, et c'est ça qui aiguise les appétits. La Caisse des dépôts et consignations a repéré des pratiques frauduleuses. Il faut vous rapprocher d'elle pour savoir qui se cache derrière ces offres de formation très alléchantes.
Mais alors justement, est-ce que c'est le moment de vider son compte personnel de formation?
Le CPF, c'est bien, mais c'est pas un couteau suisse. L'appli a beaucoup de succès pour les formations courtes, en langue, en management, mais beaucoup moins pour obtenir un diplôme, une certification pour un métier. Et c'est ça dont on a besoin si on veut se reconvertir en période de crise. Il faut pas se tromper de levier. C'est le conseil de Philippe Debrine, secrétaire confédéral à la CFDT. Au plan individuel, on peut aussi utiliser le PTP, l'ancien CPF de transition, qui est aujourd'hui fléché vers les métiers de l'écologie et du numérique. Au plan collectif, si l'entreprise va mal, il y a la possibilité du dispositif Transco, transition collective, dont l'objectif est de reconvertir plutôt que licencier. Le monde de la formation a le chic pour trouver des sigles archi compliqués, mais le mieux, c'est de prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, un CEP, en voilà un autre. C'est gratuit, personnalisé, mais pour le coup, Marie-Claude, c'est sérieux.
MVAB, ma vie au boulot, Sandrine Foulon, SF. Bonne journée à vous, Sandrine.